Radio Okapi.
Balle à Goma au Nord Kivu, dont l'auteur a été identifié comme un élément des FRDC en divagation. Hier dimanche, en plein jour, un passant est mort au centre-ville et 5 personnes ont été blessées par les tirs du même soldat. Train de vie des institutions à RDC. La première ministre devrait former un gouvernement de moins de 30 ministres et décider aussi des réductions drastiques des salaires et des avantages attribués aux gouvernants. Proposition du professeur Ngoma Binda dans une interview à Radio Okapi. L'invité du journal, c'est Valérie Madianga, directeur général du Centre de recherche en finances publiques et développement local. Il suggère à la nouvelle première ministre quelques mesures pour lutter contre le dépassement budgétaire devenu récurrent en RDC. Bonjour à tous. Au micro, Noëlla Luzitu Kabambi. Au Nord Kivu, encore un cas de meurtre par balle dans la ville de Goma, dont l'auteur a été identifié comme un élément des FRDC en divagation. L'incident s'est produit hier dimanche en plein jour au centre-ville. Dans la foulée, 5 autres personnes ont été blessées par les tirs du même militaire, Chris Mukande.
Les témoignages recoupés indiquent que cet homme en uniforme et portant un fusil, en état d'ébriété très accentué, a surgi de nulle part et s'est mis à tirer des coups de feu dans tous les sens. Il est 14h et l'endroit est très fréquenté car c'est un quartier commercial. Nous sommes là, dans les rayons du rond-point Chukudu, au quartier Mikeno. Les rafales ont donc fauché un passant, décédé sur le coup, et plus ou moins 5 personnes blessées. Ayant surmonté la panique et après que le forcené ait vidé son chargeur, des jeunes gens l'ont maîtrisé et sérieusement passé à tabac. C'est l'intervention des forces de l'ordre qui a évité la vindicte populaire. Ce comportement que décrit la population et la société civile locale tend à se banaliser dans la ville de Goma. Des individus portant des armes, en uniforme ou en tenue civile, arpentant les rues sans motif connu, surnommés Satan 2, sont généralement accusés d'avoir la gâchette facile. Les coups de feu deviennent presque la routine à Goma. La nuit des vendredis à samedi, les habitants de quartiers Bujovu et Majengo se sont enfermés très tôt. Et pour cause, des coups de feu nourris se sont fait entendre du côté de l'aéroport. Des cas similaires ont été rapportés dans la majeure partie de la ville. Goma, Chris Mukande, Radio Okapi.
Toujours au Nord Kivu, au moins 100 ménages des personnes déplacées avec plus de 300 enfants des 0 à 17 ans vivent dans la précarité totale depuis un an et demi dans l'enceinte de l'école Moussawato au quartier Katindo 2, commune de Karisimbi. Elles sont venues des différentes localités, notamment de Kibumba et de Buhumba dans le Niragongo, ainsi que des territoires de Masisi et Rutshuru. Au moins 16 femmes enceintes se retrouvent dans ce site sans suivi médical. Dans le cadre de la clôture du mois de la femme, le personnel féminin de l'hôpital général de Goma a décidé de prendre en charge ces femmes déplacées enceintes pour des soins jusqu'à l'accouchement. Un reportage de Sifamagou.
Comme l'explique cette mère de famille, Foura Moulengezi Jean d'Arc, le vécu quotidien de ces familles n'est pas facile.
Nous vivons dans la misère parce qu'un déplacé n'a jamais connu la joie. Nous n'avons aucune activité et sommes obligés d'utiliser nos enfants pour aller quémander afin de trouver la nourriture. Cela comporte beaucoup de risques. Nos enfants se font tamponner et d'autres tabasser.
Nous y avons également trouvé une dizaine de femmes enceintes qui n'arrivent pas à se rendre au centre de santé de Kanyaruchi à cause de la distance et d'autres contraintes alors qu'elles sont vulnérables. Certaines affirment avoir accouché sans avoir effectué des consultations prénatales et d'autres disent avoir connu des fausses couches à répétition. C'est l'exemple de Dorika, une jeune mère de 28 ans qui témoigne ici son calvaire.
J'aurais dû avoir 3 enfants, mais j'en ai 2. L'un est mort. J'ai des avortements tous les jours. Ça fait 2 fois ici dans les sites. Je ne sais pas si c'est une maladie. J'ai des douleurs au dos et au ventre. Un autre défi évoqué par les mamans est celui de pouvoir gérer la période des menstrues des adolescentes sans eau, ni savon, ni vêtements de rechange. Des moments très inconfortables qui traversent leurs enfants. Goma Sifamagoro, Radio Okapi.
Dans le territoire de Beni, toujours au Nord Kivu, l'armée, les services de sécurité et les organisations de la société civile se sont réunis hier dimanche pour évaluer la situation sécuritaire à Mangina. Cette commune rurale, située à 30 km de la ville de Beni, est la cible depuis 2 mois des attaques des rebelles des ADF. Différentes recommandations ont été faites pour renforcer la sécurité de la population. Marc Marofimbo pour les détails.
Au cours de la réunion, la société civile a insisté sur le renforcement de la communication entre la population et les autorités d'une part, et d'autre part la prise en compte par les FARDC et les services de sécurité des alertes sécuritaires. Cette structure citoyenne a demandé aux services de sécurité de dénoncer tous les complices des ADF qui se seraient parmi les populations et des forces de défense et de sécurité. Mwongozi Vunyasi est président de la société civile de Mangina.
On peut y avoir celles qui collaborent avec l'ennemi. C'est-à-dire, on doit couper cette chaîne de relations entre l'ennemi et celles qui collaborent avec celui-ci. Ça peut être celles qui peuvent se retrouver dans la population, mais également aussi dans l'armée, on peut y avoir celles aussi qui collaborent avec l'ennemi.
Le bourgmestre de la commune rurale de Mangina estime que l'issue de cette rencontre devrait permettre de renforcer la collaboration entre la population et les FARDC. Katemu Salam.
Je crois avec cette assise que nous venons de faire avec la communauté de Mangina, les recommandations émises dans cette réunion vont renforcer le mariage civilo-militaire de part et d'autre pour que la sécurité règne à la commune de Mangina.
Depuis le début du mois, une dizaine de civils ont été tués dans différentes attaques attribuées aux ADF à Mangina. Beni Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Et dans cette même commune rurale de Mangina, le bourgmestre adjoint de la commune annonce la reprise des cours dans 16 écoles primaires et secondaires situées dans les quartiers Home 4 et Mangodomu. Depuis 3 semaines, toutes les activités sont paralysées dans ces écoles à la suite de la multiplication des attaques des ADF dans la zone. Katembo Salamu appelle les parents à envoyer leurs enfants à l'école et rassure que des dispositions sécuritaires ont été prises pour permettre le bon déroulement des activités scolaires. Il est au micro de Marc Marofimbo.
Il y a eu beaucoup d'engagements qui ont été pris à ce qui concerne la paix. On a Nairobi, on a les actes d'engagement unilatéral signés au gouvernorat. On a Arou et aujourd'hui, c'est la 4e signature d'un acte d'engagement. Partant des résultats des 3 premiers actes d'engagement pris, nous sommes restés vraiment sceptiques par rapport au nouveau engagement que ces groupes armés viennent de prendre. D'autant plus que tous les 3 autres n'ont pas permis à ceux qui respectent les engagements qu'ils ont pris de cesser les faits et d'observer en attendant le désarmement et la réintégration dans leur vie civile. Nous, en tant que collectif, on voulait proposer au gouvernement cette fois-ci, après engagement de ces groupes armés, pendant cette période d'accalmie où ils sont en train d'attendre l'issue des engagements qu'ils ont pris, de commencer à identifier les éléments au sein de ces groupes armés pour essayer de dénicher les volontaires. Parce que le gouvernement vient de créer un corps de volontaires qui veulent défendre la patrie.
Rendons-nous en Ituri. 4 personnes sont mortes et 3 autres blessées dans un éboulement de terre survenu hier dimanche dans le site minier Maïmoussi, à environ 100 km de la ville de Bounia, dans le territoire de Djougou. D'après des sources locales, 3 enfants mineurs figurent parmi les victimes qui se trouvaient de manière illicite dans ce site à la recherche des minerais. Des acteurs de la société civile et des activistes et des droits de l'homme qui déplorent l'utilisation des enfants dans les mines attribuent cet accident à l'affaissement de terre. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Ce drame a eu lieu autour des 17h locales dans le carré minier de Maïmoussi, région minière située à 2 km du centre commercial de Mbidjo. D'après des sources locales, ces chantiers miniers abandonnés depuis très longtemps comptent au moins 7 puits d'or où les creuseurs artisanaux exploitent les minerais. 7 personnes, dont 3 mineurs qui se trouvaient à l'intérieur d'un puits d'or d'environ 8 mètres de profondeur, ont été ensevelis par la terre. La même source ajoute que 4 personnes sont mortes par asphyxie, tandis que d'autres ont été blessées puis acheminées dans un hôpital, indique des témoins. L'ONG Coalition Associative Résolue pour la Défense des Droits de l'Homme Coardo déplore ces drames qui, selon elle, est dû au mauvais état de ses puits, mais aussi aux fortes pluies qui s'abattent régulièrement dans la région. Lembu Urochi est son coordonnateur.
La crise alimentaire est à la base de la présence des affaires minières au foyer minier. Nous demandons aux parents de ne pas laisser accès aux affaires et aux orpailleurs de ne pas utiliser les enfants mineurs pour l'exploitation artisanale de l'or.
Des activistes des droits de l'homme et la société civile dénoncent la présence des enfants dans des périmètres miniers dans cette zone où de nombreux habitants vivent dans l'insécurité alimentaire en raison de l'activisme des groupes armés. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
La première ministre devrait former un gouvernement de moins de 30 ministres avec des réductions drastiques des salaires et des avantages attribués aux gouvernants. Affirmation dans une interview à Radio Okapi du professeur Ngoma Binda. Il plaide aussi pour la suppression de certaines institutions ainsi que pour le renforcement de la gouvernance participative. Ce politologue estime que le gouvernement central devrait prioritairement promouvoir la décentralisation. Michel Kifindangoy.
La réduction du train de vie des institutions devrait prioritairement passer par la formation d'un gouvernement de moins de 30 ministres, estime le professeur Ngoma Binda.
Je pense que le tout premier acte que la première ministre doit prendre, c'est de réduire le nombre de ministres. Il n'est pas normal que nous ayons autant de postes de dépenses en termes de ministères. C'est trop budgétivore. Du temps de Mobutu, la moyenne des ministres qu'il avait, c'est dans les 28. Cela est tout à fait compréhensible. Pas 40.
Ce politologue et auteur de plusieurs livres en éthique politique propose à la première ministre de réduire de façon drastique les rémunérations et avantages attribués aux dirigeants politiques.
Lorsque les députés ont 33 000 dollars, ça blesse la moralité des gens, parce que il y a des gens qui meurent de faim par manque de 1000 francs simplement pour s'acheter un petit pain. Les députés nationaux devraient avoir 3300 dollars par mois. 3300 dollars, un point, un trait.
Le professeur Ngoma Binda plaide également pour la suppression des institutions budgétivores qui n'apportent pas grand-chose au quotidien des Congolais.
En plus bref, au Kasaï central, le secrétaire exécutif provincial de la CENI, Onu Ntumba, est suspendu de ses fonctions. La décision est tombée à la suite du passage du deuxième vice-président de cette institution à Kananga. Selon des sources au sein de la CENI, Onu Ntumba est sanctionné pour faute administrative grave. D'après les mêmes sources, l'intérim est assuré par Véronique Bawoto. Des représentants de tous les États membres africains des Nations Unies, de la Commission de l'Union africaine, de la Banque africaine de développement, des communautés économiques et régionales, de la société civile, des organisations commerciales et industrielles, des institutions universitaires et de recherche, des agences et organisations du système des Nations Unies et d'autres agences et organisations internationales, ainsi que tous les partenaires de développement prennent part depuis dimanche à Addis Abeba au 6e Forum africain sur la science, la technologie et l'innovation. Le forum organisé par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a quelques objectifs du développement durable. Daniel Tambizoni.
Sont sous examen les ODD 1, 2, 13, 16 et 17 qui parlent respectivement de la pauvreté, qui traitent de la faim, le changement climatique, la paix, la justice et les institutions fortes et aussi le partenariat pour la réalisation des objectifs 2030 et les objectifs correspondants de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ce 6e forum africain sur la science, la technologie et l'innovation est placé sous le thème « Fourniture efficace des solutions scientifiques, technologique et innovante pour renforcer l'agenda 2030 de développement durable et l'agenda 2063 et éradiquer la pauvreté en Afrique. L'objectif est de procéder au suivi à l'examen régional des progrès réalisés afin d'identifier les mécanismes et les mesures potentielles que les pays peuvent déployer pour intensifier les actions, faciliter l'apprentissage entre pairs et faire progresser la transformation des solutions pour accélérer la réalisation des objectifs de développement durable et des objectifs de l'agenda 2063.
Province du Maniema à présent. Les médecins chefs de zone de toutes les 18 zones de santé de cette province et les cadres de la division provinciale de la santé Maniema viennent de participer à un atelier de reconfiguration de la chaîne d'approvisionnement des vaccins et autres intrants de vaccination. Durant 3 jours, les participants ont échangé sur comment mettre fin à la problématique de rupture de vaccins dans les structures sanitaires. Docteur Alain Mogoto Biamungu, programme manager de l'ONG Village Rich, qui a organisé cet atelier, est au micro de Florence Kizalunga.
La province a été considérée comme la deuxième sous l'échiquier national à régorger le plus grand nombre d'enfants zéro dose au décours des enquêtes de couverture vaccinale réalisées par l'école de santé publique en 2022. S'il faut décrire la situation qui se faisait avant, c'est que les vaccins, quand ils quittaient l'antenne Kindu pour aller dans les 5 zones de santé de la même antenne. Les antennes ne prenaient pas en charge les sites de stockage qui étaient sur leur trajectoire. Mais la reconfiguration de la chaîne d'approvisionnement que nous venons de faire ici nous a permis de demander aux antennes de prendre en charge tous ces sites de stockage sur leur parcours pour que les zones de santé qu'ils sont en train de censer servir ne puissent pas rentrer sur leur parcours. Et ce qu'il faut encore dire, c'est que pour les zones de santé, la plupart d'infirmiers laissaient le travail parfois d'aller vacciner les enfants ou d'appuyer les relais communautaires à identifier les zéro doses pour venir chercher le vaccin au niveau des zones de santé. Autant nous voulons qu'il y ait équité dans les prestations de services de vaccination, nous voulons aussi qu'il y ait équité dans la chaîne d'approvisionnement.
Actualité internationale.
Le pape a réitéré hier son appel pour la paix pour le Moyen-Orient alors que la région reste en proie aux tensions 6 mois après l'attaque du Hamas contre Israël faisant 1200 morts et 250 otages. La riposte israélienne a de son côté transformé la bande de Gaza en champ de ruines avec plus de 33 000 morts selon les autorités locales. Planète contre plastique, c'est le nouvel appel aux armes pour le jour de la Terre ce 22 avril 2024. À cette occasion, on appelle à une réduction de 60% de l'utilisation du plastique d'ici à 2040. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, l'homme produit 400 millions de tonnes de déchets plastiques chaque année.
L'invité.
Tractation pour la formation du nouveau gouvernement. Des acteurs de la société civile exigent une réduction du train de vie des institutions pour dégager des lignes budgétaires pour des investissements. C'est notamment Valérie Madianga, directeur général du Centre de recherche en finances publiques et développement local. Il propose à la nouvelle première ministre quelques mesures pour lutter contre les dépassements budgétaires récurrents. Situation à la base d'une économie peu reluisante avec une croissance non inclusive. Valérie Madianga, directeur général du Krefeld, s'entretient avec Cynthia Bachizi Nabizana.
Valérie Mandianga, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Aujourd'hui, tout le monde est d'avis qu'il faut absolument réduire le train de vie des institutions au niveau du Krefeld. Qu'est-ce que cela vous inspire?
Bon, le train de vie des institutions, d'abord, c'est au niveau de la budgétisation. C'est-à-dire qu'il faut regarder quelles sont les lignes budgétaires qui sont surestimées et aussi des lignes budgétaires qui n'ont aucune importance. Et lorsque nous faisons nos analyses, nous avons toujours relevé qu'il y a d'abord la question des dépenses qui ne sont pas très très importantes. Vous avez par exemple les fonds spéciaux d'intervention. Cette ligne budgétaire, elle est pratiquement, je m'excuse pour la tautologie, budgétivore. Pourquoi? Parce qu'elle intervient pratiquement dans toutes les grandes institutions. Vous avez le Parlement, vous avez au niveau de la présidence de la République et vous avez quelques services spéciaux.
Et elle fait quoi, cette ligne?
Cette ligne-là,
elle vient appuyer quel besoin?
C'est une rémunération bis et le fonctionnement bis. Je peux vous donner l'exemple. Vous avez par exemple au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Cette ligne revient deux fois. Elle sert à financer d'abord le fonctionnement des commissions parlementaires, mais aussi elle permet à rémunérer certains agents. Vous voyez, si vous regardez davantage les crédits, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, vous verrez qu'il y a aussi une ligne rémunération, que ce soit pour les députés, mais aussi pour l'administration de l'Assemblée nationale. Et cette ligne, dans le décaissement des fonds, on fait ce qu'on appelle la mise à disposition des fonds. Ça ne suit pas la chaîne de la dépense publique. Et cette ligne, à elle seule, peut être évaluée autour de entre 200 et 300 millions de dollars par an. Et la gestion de cette ligne-là, elle est vraiment catastrophique. C'est pourquoi il faut d'abord...
Catastrophique ou opaque?
Opaque même, je peux dire. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on regarde d'abord cette ligne-là pour voir dans quelle mesure on peut détailler la ligne en termes de dépenses. Qu'est-ce qu'on couvre réellement? Je pense qu'on peut capter quelque chose. Si on va au niveau de la présidence de la République, vous avez par exemple, on parle trop de l'inspection générale des finances, qui est aussi dotée par ce fonds-là qu'on appelle le fonds spécial d'intervention. Ça explose. C'est autour de 30 millions de dollars l'année. Moi, je pense que si on doit faire les économies, à ce niveau-là, d'abord, on peut dégager quelque chose. Deuxièmement, c'est au niveau des recrutements. Vous savez que dans des cabinets des ministres, on recrute en désordre la taille du gouvernement. Je crois que on doit voir d'abord, en termes de conseillers, on doit en avoir combien? Je me souviens que le dernier décret fixait autour de 37 à 40 membres d'un cabinet du ministre. Mais dans la faisabilité, on atteint le 100 et le 150. Vous savez qu'il y a même des personnels au niveau des cabinets des ministres sont payés même par des listes additives. Donc, on n'est pas à mesure de capter la vraie masse salariale à payer à tous ces membres-là des cabinets politiques.
Alors, Valérie Mandianga, comment corriger toute cette situation qui devient récurrente, hein?
Oui, moi je pense qu'il faut d'abord commencer par revoir d'abord le nombre de membres au niveau des cabinets. Vous avez un ministre, dans son cabinet, il a des chargés d'études. Si vous allez au niveau de l'administration, il y a aussi des chargés d'études. À quoi serviraient maintenant les chargés d'études qui accompagnent les ministres? Or, pourraient être accompagnés de 2, 3 ou même une dizaine de conseillers et qui s'appuient au niveau de l'administration. Parce que au niveau de l'administration, vous avez au moins tous les services spécialisés qui peuvent accompagner l'action du premier, plutôt d'un ministre. Mais ça ne se fait pas comme ça. On explose le nombre de membres, on recrute et on ne tient même pas compte du cadre organique du ministère ou même du cadre organique qui devrait régir un cabinet du ministre. Il faudrait que le Premier ministre prenne d'abord la décision, une grande décision, pour signer un décret qui devrait limiter le nombre de membres de cabinet et leurs assimilés. Il faut qu'il y ait un courage. Vous savez, madame, si nous faisons des simulations, nous pouvons gagner autour d'1 milliard de dollars juste pour les économies qui pouvaient être effectuées au niveau des ministères, mais aussi au niveau des institutions. Nous changeons de gouvernement, mais le mode de gouvernance ne change pas. C'est ça le vrai problème.
Valérie Mandianga, merci.
Je vous remercie.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. À la présentation depuis 5h ce matin, c'était Noëlla Luzitu-Kabambi, des éditions d'information mises en onde par Jean-Claude Nsiala Mwana Makengo Swalou, dans une coordination des Élisée Chikota Chivueta. Je vous laisse en compagnie de Vanessa Nkongolo pour le journal de sport sur Radio Okapi.